Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
8h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz.
Bonjour Rémy Heitz.
Bonjour.
Nous sommes habituellement un peuple, plutôt indiscipliné. Nous faisons souvent preuve d'incivilité. Est-ce que vous diriez, monsieur le procureur, que c'est plus grave, plus important en ce moment ?
Mais écoutez, les mesures de confinement sont respectées quand même par le plus grand nombre. Ceux qui ne les respectent pas sont verbalisés. Aujourd'hui, il s'agit d'une contravention. Demain, avec un projet de loi qui va bientôt être adopté, il s'agira d'un délit lorsqu'il y aura réitération.
On va en parler.
Nous avons les moyens quand même de faire respecter ce texte, cette mesure qui, encore une fois, est une mesure destinée à sauver des vies.
Malgré tout, le Premier ministre a dû encore durcir le ton, serrer la vis hier avec des restrictions plus sévères. On sait notamment pour la pratique du sport, les sorties avec les enfants, les marchés, la fermeture des marchés. C'est-à-dire qu'on est obligé d'y revenir malgré tout.
Bien sûr. Il faut faire preuve de fermeté. Les agents de police sont tous mobilisés, les services sont là pour faire respecter ces textes et il faut vraiment espérer que nos concitoyens prennent conscience de l'importance de ces mesures.
Pour autant, monsieur le procureur, on se dit que, alors compte tenu de ce confinement, il doit y avoir moins de délinquance.
Alors là-dessus, un bilan quand même contrasté. Il y a moins de délinquance, bien sûr, de voie publique, par exemple, puisque dans le métro il y a peu de monde, il y a bien sûr pratiquement plus de vols à la tire ou de choses comme ça.
Oui.
En revanche, il peut y avoir un autre phénomène. C'est une délinquance d'opportunité. Certaines personnes peuvent profiter de la situation. Nous avons notamment, par exemple, des affaires de trafic de masques. Et là, nous montrons extrêmement fermes, puisque je le rappelle. Mais le tribunal connaît une activité réduite, mais continue, les permanences sont maintenues. Nous avons aussi maintenu des audiences de comparution immédiate. Le service public de la justice continue de fonctionner à minima, mais il continue à fonctionner. Et sur cette délinquance d'opportunité, par exemple ces trafics de masques ou de gel hydroalcoolique, ça s'est passé dans des pharmacies, dans des parapharmacies, ça se passe aussi dans d'autres cercles, mais nous organisons pour les personnes qui sont interpellées dans ce cadre des comparutions immédiates. Nous avons une réponse extrêmement ferme. Et puis, il peut y avoir aussi une délinquance générée par ces circonstances. Je pense notamment à des phénomènes de violence intrafamiliale, puisque les personnes sont confinées, ça peut créer des tensions dans les couples, entre conjoints, ça peut créer des tensions avec les enfants, et notre devoir, c'est de rester aussi présent pour écouter, entendre les victimes qui peuvent toujours se manifester, qui peuvent toujours appeler la police, déposer plainte, au besoin d'ailleurs en déposant plainte en ligne. Bref, la police, la justice
Alors arrêtons-nous quelques secondes sur ce point-là, l'augmentation des violences conjugales ou familiales. Il y a recrudescence des appels au 39-19, monsieur le procureur ?
Alors ça, je n'ai pas les chiffres pour le dire, et puis c'est un peu tôt, puisque nous n'observons pas encore une explosion des violences intrafamiliales. Mais nous avons quelques signes qui nous montrent qu'il faut être attentif sur ces situations, puisque, en effet, le confinement peut générer des tensions.
Et donc, on peut porter plainte en ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Quand on est coincé chez soi,
on n'a pas grand-chose.
Eh bien, on peut appeler la police. On peut toujours appeler la police, qui répond toujours, qui assure toujours, une permanence téléphonique. Et puis, il est possible également de faire une pré-plainte en ligne, c'est-à-dire de saisir sur un ordinateur, sur informatique, les motifs du signalement, et dans ce cas-là, il y a une réponse après des services de police. Nous sommes très attentifs, encore une fois, à ces situations, puisque il en va de la sécurité des personnes. Toutes les affaires importantes sont traitées. La justice, qui, je le rappelle, est un pilier de l'état de droit, la justice fonctionne dans ces circonstances. Et je tiens aussi à cette occasion d'ailleurs à rendre hommage, parce qu'on en parle peu, puisqu'ils sont assez discrets, aux magistrats, aux fonctionnaires de justice, c'est-à-dire aux greffiers, également aux avocats qui continuent d'œuvrer, encore une fois, pour que l'état de droit puisse être assuré.
Encore une question sur ce que vous appeliez la délinquance d'opportunité, donc consécutive à ces confinements. Est-ce que vous recensez des pillages de magasins ou des braquages ?
Peu de braquages. Nous avons eu des vols dans des magasins. Il y a aussi une attention particulière à porter sur les vols effractions, puisqu'il y a beaucoup d'appartements qui ont été désertés par leurs occupants. Donc il faut faire attention à cela. Pour le moment, on ne peut pas parler, bien sûr, d'explosion, mais nous avons une délinquance qui va s'adapter aux circonstances. La police et la justice, eh bien, s'adaptera également pour vraiment qu'il n'y ait pas d'impunité durant cette période. Il ne faut pas que la période produise en quelque sorte un effet d'aubaine pour ceux qui voudraient en profiter, pour ceux qui voudraient exploiter la détresse des autres et notamment des plus vulnérables dans cette situation particulière.
Combien d'amendes, monsieur le procureur, vous avez dressées pour non-respect des règles du confinement ? Vous l'avez dit tout à l'heure, en cas de non-respect, on s'expose à une amende de 135 euros. Ça, c'est dissuasif ?
Alors, c'est dissuasif, c'est une contravention de quatrième classe. Des milliers ont déjà été dressés avec le nouveau texte.
Des milliers, c'est-à-dire ?
Je n'ai pas le chiffre précis à cette heure, mais nous sommes sur des milliers, des dizaines de milliers.
J'ai entendu
nous
dire presque 100 000,
national.
C'est vrai ?
Alors, 100 000, c'est le chiffre national. Ah. 100 000, ce n'est pas le chiffre parisien. Et moi, je suis procureur de Paris, je ne vous parle
que de
Paris. Des milliers de contraventions donc à cette heure. Demain, lorsque le texte sera adopté, en cas de réitération, une personne qui renouvellera ce type de comportement encourra une sanction plus grave, notamment un délit, c'est-à-dire puni de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Donc le message est très ferme.
Dites-moi, monsieur le procureur.
Il y a un avertissement en cas de non-respect du confinement. Si la personne se maintient dans ce type de comportement et continue à ne pas respecter les règles, eh bien là, il y aura une sévérité accrue.
Monsieur le procureur, vous allez surcharger les prisons qui sont déjà saturées ?
S'agissant des prisons, croyez-moi, nous sommes très très préoccupés par cette situation. Nous faisons en sorte vraiment d'alléger la surpopulation carcérale. Comme cela a été dit dans le reportage que j'ai entendu tout à l'heure.
Le reportage de Thomas Proutot, oui.
De Thomas Proutot, nous procédons à des libérations anticipées. Nous tenons compte aussi du sens de la responsabilité des détenus. Les détenus qui se comportent bien auront des réductions de peine.
Oui. Alors, des détenus qui se comportent bien auront droit à une réduction de peine. Combien de libérations possibles ?
Que les choses soient claires, nous ne sommes pas dans l'idée de vider les prisons. Ce serait irresponsable. Je vous parle, moi, plus spécialement de la maison d'arrêt de la santé qui est sur le ressort du tribunal de Paris. Nous avons déjà pris un certain nombre de mesures de libération anticipée pour les détenus qui allaient sortir. Les juges d'instruction, au cas par cas, étudient aussi la situation des prévenus qui peuvent être élargis, qui peuvent être libérés. Contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, le parquet ne bloque pas ces mesures, mais dans certains cas, le parquet joue son rôle. Et lorsque la libération ne lui paraît pas justifiée, mais pour des faits graves, eh bien dans ce cas-là, il fait un appel et donc il forme ce que l'on appelle un référé détention. Mais nous sommes dans ce souci de limiter donc la pression sur les établissements pénitentiaires, de libérer ceux qui peuvent être libérés, notamment aussi ceux qui ont des problèmes de santé.
On sait que le confinement est difficile à faire respecter.
En utilisant toutes les voies de droit possibles.
Tout à fait, on sait que le confinement est difficile à faire respecter en prison. Mais pardon, soyons clairs, c'est pas le coronavirus qui va décider de l'aménagement de la peine. La libération conditionnelle, c'est une question d'indépendance de la magistrature, on est bien d'accord.
La libération conditionnelle, elle est décidée lorsqu'il y a des garanties qui peuvent être offertes. Nous ne pouvons pas laisser sortir quelqu'un qui ne sera pas accueilli dehors. Nous avons une population qui est fragile et nous avons besoin de savoir où cette personne, par exemple, sera logée, où elle sera accueillie. Ce à quoi nous sommes attentifs, c'est la situation des établissements. Et l'analyse que nous la faisons au cas par cas. Nous sommes saisis de très nombreuses demandes de mise en liberté. C'est d'ailleurs un travail considérable pour ceux qui travaillent actuellement au tribunal judiciaire de Paris. Nous examinons avec beaucoup d'attention et
il y a des mesures
très grande vigilance
pour les gardiens de
la situation de chacun.
Il y a des mesures particulières pour les gardiens de prison ?
Les gardiens de prison, les surveillants oui. Et tout le personnel pénitentiaire effectuent actuellement un travail remarquable, fait montre d'une très grande dignité dans les circonstances actuelles. Et je pense que là aussi, il faut vraiment leur rendre hommage parce que c'est un travail qui est compliqué, qui est difficile, d'être au contact d'une population qui est une population qui souffre aussi, puisque les détenus sont confinés, sont privés pour le moment de liens familiaux, puisque pendant 15 jours, ils n'ont pas de parloir. Monsieur... C'est une situation tendue. Nous faisons tout en tout pour accompagner cette situation et pour la gérer au mieux, avec un vrai souci à la fois d'humanité, mais également de rigueur, puisque nous ne pouvons pas laisser sortir des détenus qui pourraient être dangereux.
Monsieur le procureur, en dehors de la prison, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le deal, contre le trafic de drogue qui s'opère dans la rue, qui fait se croiser des gens ? Toujours.
Alors les trafiquants de drogue, les dealers sont dans une certaine difficulté actuellement puisqu'ils ont des problèmes d'approvisionnement, puisque notamment certaines frontières sont fermées. Ils s'adaptent et croyez bien que la police, qui a parfaitement conscience de cela et qui a observé ces phénomènes, la police s'adapte aussi et la justice, elle sera là également pour apporter une réponse très ferme aux dealers qui, dans ces circonstances, continueront à vendre des produits stupéfiants, continueront à trafiquer. Ils s'adapteront sûrement, mais la police et la justice seront là pour sanctionner sévèrement ces trafics qui, dans ces circonstances, sont encore, plus inacceptables qu'en temps ordinaire.
Une toute dernière question rapidement avec ces règles de confinement. On entend dire que les banlieues sont à cran. Vous redoutez des émeutes ?
Je pense qu'il faut que chacun garde son sang-froid. Les services publics sont mobilisés, la police, la justice sont là et nous ferons tout pour que l'état de droit puisse vraiment être maintenu dans ses fondamentaux en respectant les règles et en veillant à ce qu'elles le soient par l'ensemble de nos concitoyens.
Merci beaucoup Rémi Heitz et merci à Laurent Lecor pour avoir assuré cette liaison technique.
Merci et bonne journée à tous. Merci.